Bonjour à tous. Alors, des fois, quand on va chez des personnes d'un certain âge, sur les murs, on voit des photos de famille anciennes, des photos en noir et blanc. Tout le monde a l'air très sérieux sur la photo. Même les photos de mariage, les mariés sont solennels. On a l'impression que rien ne bouge. Et on se demande, mais comment ils faisaient les mariages à l'époque ? Hier, on était à un mariage, le frère de notre gendre se mariait et il y a eu plein de petites surprises. On a eu le culte en plein air et l'entrée des mariés, enfin l'entrée du cortège plutôt, le cortège familial est entré sur un air rock comme ça et le cortège dansait. Ils avançaient comme ça en swingant et tout. Enfin, voilà, le genre de truc qu'on ne s'attend pas du tout dans un mariage alsacien, quoi. Voilà. En fait, je vous raconte ça parce que aujourd'hui on va continuer sur le Saint-Esprit. Et on avait la première séquence la semaine dernière. Et des fois, je pense qu'on a une vision de Dieu qui est un petit peu comme la photo en noir et blanc. Et il veut nous montrer, il veut nous rentrer dans la vidéo en couleur. Et c'est ce que je voudrais essayer de faire avec vous ce matin. La question, c'est qui est le Saint-Esprit ? La Bible ne présente pas Dieu comme un traité de théologie ou un catéchisme. Elle ne nous dit pas, voilà, Dieu est comme ci, comme ça, comme ça. Elle nous montre plutôt Dieu à l'œuvre, en interaction avec les humains. Et c'est de ces textes, donc ce qu'on appelle les Saintes Écritures ou la Bible, que nous pouvons tirer notre connaissance de Dieu. Alors on va commencer dans 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 9 à 18. Je vous donne quelques mots du contexte. Paul est en train de comparer le ministère de Moïse, donc qui a amené la loi, au ministère de Christ, qui a amené la grâce. Et il parle de la gloire qui était dans le ministère de Moïse. La semaine dernière, Victor, il nous a parlé de cette gloire qui avait envahi le temple à Jérusalem quand Salomon avait construit le temple. Et en fait, cette gloire, elle était déjà là avant, dans le tabernacle, dans la tente qui se promenait dans le désert avec les Israélites. Et le seul qui avait accès à ce lieu, c'était Moïse, justement. Alors, je commence la lecture au verset 9. En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclaré juste par Dieu ? On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement ? Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur, dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alors, donc, je disais, ce texte fait référence à la relation que Moïse avait avec Dieu. Donc, pendant les années qu'Israël a passées au désert, Moïse y prenait conseil auprès de Dieu en entrant dans cette fameuse tente, la tente de la rencontre, qu'on appelle aussi le tabernacle, de façon plus classique. Et la Bible dit qu'il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Donc vraiment face à face, qu'on peut dire, il voyait Dieu, quoi. Et quand il est revenu la première fois de sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, il avait le visage tellement brillant, il était rayonnant, tellement brillant, que les gens ont eu peur de lui. Ils ont pris peur de cette brillance de Dieu, quoi. Alors il a couvert son visage avec un voile, et donc il se baladait tout le temps avec ce voile dans la journée, et c'est que quand il allait dans la tente pour rencontrer Dieu qu'il enlevait ce voile pour être dans la présence de Dieu. Alors Paul rappelle cet épisode pour expliquer que si les choses passagères de l'ancienne alliance étaient empreintes d'une telle gloire, alors la nouvelle alliance bénéficie d'une gloire encore plus grande puisqu'elle sera éternelle. Alors ensuite, dans le texte, il explique que les Israélites qui lisent l'Ancien Testament, sans y reconnaître le Christ, ont l'esprit comme voilé. Ils ne comprennent pas le sens des Écritures. Ils n'arrivent pas à discerner Jésus quand ils lisent l'Ancien Testament. Alors nous, on est entourés d'un tas de gens qui sont pas juifs, qui ont la Bible entière, mais même en lisant le Nouveau Testament, ils n'arrivent pas à reconnaître Jésus. Ils n'arrivent pas à le croire, tout simplement. Donc on est aussi entouré de beaucoup de gens qui ont l'esprit voilé, qui n'arrivent pas à voir Jésus dans le texte. Et puis, plus loin dans le texte, donc à partir du verset 12, il parle de nous, il parle des croyants. Alors, il nous dit au verset 12 que cette espérance, donc l'espérance de cette gloire, nous remplit d'assurance. Loin de nous écraser sous le poids de nos fautes, le ministère de l'Esprit, de la Nouvelle Alliance, nous rend libres. C'est ce que nous dit le verset 17. On est rempli d'assurance et de liberté. On n'est pas écrasé en se disant « Oh mon Dieu, je suis pécheur, c'est affreux ». On est pardonné. Donc on n'est plus en train de se lamenter, on est dans la liberté et l'assurance. Dans la fin de notre texte, on nous dit que par l'Esprit, nous pouvons contempler Dieu. Alors on nous dit que c'est dans un miroir. Alors les miroirs à l'époque, ce n'étaient pas des beaux miroirs en verre comme on a maintenant, c'était des morceaux de métal, des boucliers ou des trucs qu'on avait polis. Alors le métal, ça ne renvoie pas vraiment bien l'image, donc c'était un peu une image un peu imparfaite comme ça. Et donc Paul dit que c'est de cette manière que nous contemplons la gloire de Dieu. On ne la voit pas directement, nous. On la voit un peu floue, enfin, pas comme elle est, quoi. Alors, ce que je voudrais souligner d'important dans ce texte par rapport à notre thème, c'est que Paul, en deux versets différents, il assimile l'Esprit, le Saint-Esprit, au Seigneur. Et dire que l'Esprit, c'est le Seigneur, c'est dire quoi en fait ? L'Esprit, c'est quoi ou c'est qui ? C'est Dieu. L'Esprit, c'est Dieu. Alors, le mot Seigneur, il est très intéressant, on le trouve beaucoup, beaucoup dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est la manière courante de désigner l'Éternel. Par exemple, psaume 8, verset 1, « Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est grande sur toute la terre. » Alors, dans le Nouveau Testament, le terme est souvent utilisé pour Jésus, ce qui prouve bien que pour les auteurs bibliques, Jésus était Dieu. Par exemple, le texte très connu de la Sainte Cène, 1 Corinthiens 11, 23, « le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, etc. » Et donc, dans ce texte qu'on vient de lire, on a aussi la précision que l'Esprit, c'est le Seigneur. C'est vraiment frappant parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes qui disent ça comme ça. Donc, verset 17, « Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. » Et à la fin, au verset 18, « C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Donc ce terme de Seigneur s'applique aussi bien au Père créateur qu'à Jésus et qu'au Saint-Esprit. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a trois dieux ? C'est quoi ce truc ? Comment concilier cette réalité biblique avec l'affirmation qu'il n'y a qu'un seul Dieu ? Alors ces questions ont suscité beaucoup de débats théologiques qui ont animé notamment le premier et le second siècle sur la nature de Dieu. Et là, j'aimerais qu'on mette la première slide du PowerPoint. On va regarder le plan de la prédication, comme ça vous voyez où je veux en venir, quoi. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec ci ou ça, qui pensaient que Jésus n'est pas Dieu ou que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, enfin voilà. Et du coup, il y a eu des écritures, des choses comme ça, et dès le second siècle est apparu le mot de Trinité. qu'on ne trouve pas tel quel dans la Bible, mais dont le concept est bien, y est bien présent. Voilà, donc là, on a le plan de ce qu'on va dire. Donc, on a vu le point 1, on l'a vu. Et maintenant, on aborde la question de la Trinité, hein, et les trois points de la Trinité. Je vais vous expliquer ça. Voilà, donc la Trinité, on a trouvé ce terme la première fois sous la plume d'un Théophile d'Antioche. Il parlait de triade, et ça a été traduit par Trinité en latin par Tertullien, un théologien auquel on doit les premières formulations de la foi chrétienne. Ces débats ont conduit à la réunion de concile, ça veut dire des grandes réunions de tous les évêques, de tous les responsables, pour se mettre d'accord sur les formulations de la foi. Et donc, il y a eu deux grands conciles, à Nicée en 325, puis à Constantinople en 381, concernant justement cette question de l'être de Dieu, comment décrire Dieu. Parce que parler de la Trinité, ça amène à parler de l'être même de Dieu, de qui il est dans son être, quoi. Et c'est très difficile. Alors, on a essayé de le définir à travers ses attributs. La sainteté, l'éternité, l'omniscience, c'est-à-dire qu'il sait tout, l'omnipotence, il peut tout, et l'omniprésence, il est partout. Donc ça, c'est général. Ensuite, la doctrine de la Trinité repose sur trois piliers, trois idées présentes dans la Bible. La première idée, c'est qu'effectivement, Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. Et tout l'Ancien Testament nous en parle. Deutéronome 6,4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Ésaïe 45,5, « C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. » 1 Corinthiens 8,4, « Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Alors cette affirmation, elle est acceptée par les autres monothéismes que sont l'islam et bien sûr le judaïsme. Deuxième point, ça se corse. Dieu existe en trois personnes. Dieu est pluriel. Alors là, je voudrais qu'on mette la deuxième slide du PowerPoint. Voilà. Voilà la première phrase de la Bible. Est-ce qu'elle vous convient écrite comme ça? Il y a un X à Dieu, hein, c'est bizarre quand même. Alors, dans l'hébreu, dans l'original, le mot Dieu, il est écrit là au pluriel. Hein. Dans la Genèse, il y a écrit Dieu au pluriel, créa, mais le verbe au singulier. Et tout le texte, tout le premier chapitre, Dieu dit, c'est toujours Dieu au pluriel, dit singulier. Donc on a un sujet pluriel avec un verbe singulier tout du long. La deuxième phrase, on nous dit que l'Esprit de Dieu était déjà là et que l'Esprit se mouvait à la surface de l'abîme. Plus loin dans le chapitre 1, on a le verset 26, la slide suivante. Et Dieu dit au pluriel, faisons les hommes à notre image, à notre ressemblance. Donc ce Dieu unique, il est plusieurs. Et ce Dieu est une personne, hein, on dit c'est une personne. C'est un être personnel. Il a une volonté, il peut éprouver des émotions. Il n'est pas un principe philosophique, ni une théorie. Il n'est pas une force ou une énergie impersonnelle, encore moins une projection de l'esprit humain, comme le pensent par exemple les athées. Une amie non-croyante, à qui j'essayais d'expliquer ma foi, ne parvenait pas à comprendre cela. Comment ça ? Dieu, c'est une personne, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire qu'il a des bras, des jambes, des yeux, un nez, une bouche ? Comment répondre ? Ben non, il n'est pas comme nous, il n'a pas des bras, des jambes. Mais oui, quand même, il peut agir et il nous voit, il nous entend. Alors, pour un lecteur de la Bible, il n'est pas difficile de se représenter le Père et le Fils comme des personnes. Hein ? Nous lisons des passages où Dieu s'exprime à la première personne, comme dans les 10 commandements, et où il se présente comme Père. Hein, dans le Nouveau Testament, il est dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom du Père qui est dans les cieux. On a l'habitude des anciens tableaux où on voit Dieu comme un vieillard sur un nuage, tout ça. Le texte de l'Apocalypse nous montre Dieu sur un trône. Le Fils, lui, il est venu vraiment dans un corps humain sur la terre, et les évangiles nous le décrivent. Il y a des tas de représentations de Jésus sous toutes leurs formes dans la terre entière, hein. Même si les évangiles ne nous en donnent aucune description physique. Pour le Saint-Esprit, c'est quand même plus compliqué, hein. Souvent, on se le représente comme un oiseau, à cause de ce texte-là de Genèse 1, ou alors aussi à cause du baptême de Jésus, ou s'il est venu comme une colombe. Alors, on se dit, bon, le Saint-Esprit, c'est un oiseau, moi, bon. On se le représente comme, justement, des gens se le représentent comme une force, un fluide, une énergie. Or, la Bible enseigne vraiment que le Saint-Esprit, c'est une personne. En grec, le mot esprit se dit pneuma. Ça signifie aussi vent. C'est comme en hébreu. En hébreu, c'est ruach, qui veut dire vent et esprit, et en grec, c'est pneuma. Et le mot pneuma a aussi les deux sens. Mais j'ai appris une chose intéressante, c'est que pneuma, en grec, c'est un mot neutre. Vous savez, en allemand, on a les trois genres, hein, le der, die, das, donc c'est un das, le mot pneuma. Mais quand il est question de l'esprit dans le Nouveau Testament, eh ben on dit il, on dit er, pour parler d'un mot das, vous voyez ? Donc ça montre bien que c'est une personne, c'est pas juste un truc, c'est pas un objet, c'est pas une, voilà. C'est un il, c'est vraiment une personne. Et on le voit présent à travers toute la Bible, il est cité à certains moments clés, comme ça, où il fait plein de choses. Donc on a vu, donc il a participé à la création, donc on a vu ça avec Genèse 1-2, mais il y a aussi un verset dans Job 33-4, et ça on peut afficher. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé, c'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Ensuite, il est cité pour toutes sortes de choses dans l'Ancien Testament. Donc, il donne des capacités, de l'habileté manuelle même, pour réaliser le tabernacle. On nous parle de Samson, qui était doué d'une force prodigieuse par l'Esprit de Dieu. On voit des rois qui conduisent leur peuple avec sagesse, comme David, par exemple, par la puissance de l'Esprit. Il y a même que le Saint-Esprit peut transporter une personne d'un endroit à l'autre. Ça arrive avec Élie et ça arrive avec Philippe dans le Nouveau Testament. Et il est dit souvent qu'il donne l'intelligence. Alors là, on peut lire Job, encore 32, les versets 7 et 8. Donc c'est Éliou qui parle, c'est le jeune homme qui parle à la fin et qui dit « Je me disais, ceux qui ont un âge avancé sauront parler. L'expérience de l'âge fera connaître la sagesse. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » Et ainsi, Ésaïe 11:2 nous parle du Messie que Dieu va envoyer à son peuple. Et c'est dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Le Saint-Esprit parle à travers les prophètes. Hein, il y a des phrases comme « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi ». Puis on voit l'Esprit agir au moment de la naissance de Jésus, hein, avec Élisabeth, avec Marie. Le Saint-Esprit enseigne. Jean, chapitre 14, le verset 26. Donc c'est Jésus qui annonce à ses disciples qu'il va partir et que le Saint-Esprit va venir à leur rencontre. Donc il dit « Le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Un autre petit détail qui montre que le Saint-Esprit est une personne, c'est Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et qui montre qu'il fait partie de la nature divine, c'est que dans beaucoup de textes, il est associé au Père et au Fils. Par exemple, il y a ce fameux verset dans Matthieu 28:19 qu'on dit pour les baptêmes, hein, donc « Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est le même nom. Ce n'est pas au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un seul nom. Et aussi, il y a une bénédiction dans Éphésiens 1, au verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Jésus-Christ. » Donc on trouve les trois dans le même verset. Voilà, on a fini le point 2. Donc j'espère que je vous ai convaincu que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Et que c'est une personne, c'était ça. Alors ensuite, le point 3, c'est encore plus subtil, ça nous dit que ces trois personnes sont égales en divinité, mais elles ne se confondent pas. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père. Et là, il y avait un schéma, je ne sais pas si tu as réussi à le mettre, Pierre-André, le schéma. Ah, super. Voilà, donc ça, c'est une représentation que j'ai trouvée de la Trinité, que j'ai trouvé bien. Ça explique très bien les choses. Donc, on a vraiment trois entités, Père, Fils, Saint-Esprit, mais qui ensemble font Dieu. Et c'est bien écrit que chacun d'eux est Dieu, mais que chacun n'est pas l'autre. C'est vraiment trois personnes, quoi, trois personnes différentes. Alors, classiquement, on les distingue par leur rôle, hein, grossièrement, comme ça. On va dire le Père crée, c'est le Créateur. Il est à l'origine de toute chose. Le Fils, qu'on appelle aussi la parole de Dieu, s'incarne pour révéler le Père et il s'est donné pour sauver le monde. Et l'Esprit applique aux croyants l'œuvre de salut de Christ. Il produit la communion entre nous, mais aussi entre les croyants. En même temps, on voit bien que ce n'est pas si cloisonné que ça, puisqu'on a vu que l'Esprit participe à la création, c'est aussi dit que Jésus participe à la création, donc c'est pas si carré que ça, hein, mais ils ont quand même chacun un peu un domaine de compétence, on va dire. Voilà, donc ça c'est l'idée, voilà, la doctrine chrétienne c'est ça. C'est ça la doctrine chrétienne qui a été établie à la suite de ces conciles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais très vite, dès les débuts de l'Église, des déviances sont apparues. Selon que l'on acceptait seulement deux de ces trois piliers, donc de ces trois idées que je vous ai dites, ben on acceptait l'une mais pas l'autre. Par exemple, Arius, il reconnaissait les trois personnes tout en insistant sur le fait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, le Père. De ce fait, Jésus et le Saint-Esprit lui étaient subordonnés et n'étaient pas Dieu. On a appelé cette hérésie l'arianisme. De nos jours, ce sont les témoins de Jéhovah qui maintiennent cette position. Alors, il y en a d'autres qui oubliaient le premier pilier, qui oubliaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, du coup, on se retrouvait avec trois dieux. C'est le trithéisme. Ou alors, on acceptait le premier pilier, donc il n'y a qu'un seul Dieu, et le troisième pilier, chaque personne est distincte, mais on pensait que les trois personnes sont en fait trois modes d'existence successifs de Dieu. Qu'en fait, Dieu, il est unique, mais qui se manifeste une fois comme ci, une fois comme ça, une fois il est père, une fois il est fils, voilà, mais qu'il n'existe pas les trois ensemble. Ça s'appelait le modalisme. Bon, je suis sûre qu'il y en a plein eu d'autres, des théories fumeuses, mais voilà. Donc, c'est à cause de ces déviances que tout ce travail théologique a été fait par les pères de l'Église. Et donc, c'est ces conciles dont je vous ai parlé avant, là, qui ont formulé la foi qui est orthodoxe, ça veut dire reconnue comme fidèle aux données bibliques. Alors, ils ont écrit un texte. Donc, chaque mot était pesé, que vous connaissez, que vous l'avez entendu, on l'appelle le credo, souvent, hein, dans les églises classiques, historiques, là, on les récite souvent sous la forme « je crois en Dieu », etc. Donc là, eux, c'était sous forme de « nous croyons », hein, c'est pas « je crois ». Donc je vais vous lire juste les passages qui parlent qui nous intéressent là pour notre thème. « Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. » Chaque mot est important. Hein. C'est pas, on dirait que ça se répète, mais chaque mot a sa place pour répondre justement à des fausses doctrines qui couraient déjà à l'époque. Plus loin, on lit... Nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur, là on retrouve Seigneur, et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Donc ce que les pères de l'Église ont expliqué dans leurs écrits, c'est que la différence entre les trois personnes de la Trinité résulte essentiellement de leurs relations, des relations qu'il y a entre elles. Alors là, on nous dit, le Fils est engendré du Père. Alors on comprend déjà plus, Parce qu'on se dit, mais s'il y a un père et un fils, et que le père, il était avant, ben non, le fils, il est aussi éternel que le père. Donc, ce n'est pas que le père était avant et qu'ensuite, il y a eu Jésus et ensuite le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça. Ils étaient de toute éternité ensemble et c'est dans leur... C'est quelque chose qui circule à l'intérieur d'eux et qui fait que le fils est engendré du père, que l'esprit vient du père et du fils, vient des deux, pas que du père. Bon, incompréhensible, on est d'accord. Ben oui, c'est normal que ça soit incompréhensible parce que nous, on a des petits cerveaux humains et qu'on est des gens créés, on fait partie de la création. Et on ne peut pas décrire Dieu parce que c'est le seul être qui est incréé. Dieu, personne ne l'a fait et il a existé de tout temps. Déjà ça, on ne peut pas se représenter, l'éternité. Donc, on ne peut pas se représenter Dieu, vraiment. C'est impossible. Donc, voilà les mots que Dieu nous donne pour qu'on arrive à comprendre un peu quelque chose. Hein. Mais ça reste des mots et ça ne décrira jamais la réalité. On peut essayer de comprendre, par exemple, avec l'image d'une personne, la psychologie d'une personne, elle a la mémoire, elle a une volonté et elle a une intelligence. Toutes ces trois choses, elles sont dans elle, dans sa tête, et on peut pas dire ça c'est la mémoire, ça c'est la volonté, ça c'est l'intelligence, les trois travaillent ensemble, vous voyez. Donc ça peut nous donner une petite image de comment trois êtres différents peuvent en faire qu'un seul. Alors tout ça, ça paraît bien théorique, mais pourquoi est-ce que c'est important? Sur le mur, là, il y a écrit « Dieu est amour ». Si Dieu était un être solitaire, il ne pourrait pas être amour. Parce qu'on ne peut pas aimer tout seul comme ça, sans personne. Il aurait dû déjà nous créer pour avoir quelqu'un à aimer. Mais en réalité, l'amour parfait, rayonnant, chaleureux, circule de toute éternité entre ces trois personnes de la Trinité, dans une relation pleine de mouvements, de collaboration et de soumission mutuelle. Rien ne manque à Dieu. Il ne s'ennuie pas du tout au ciel. Il vit dans une joie vivante et parfaite. Il n'a pas besoin de nous. Ça nous dérange un peu, ça, non? Dieu, il n'a pas besoin de nous. Dieu, il va très bien tout seul, parce qu'il n'est pas tout seul. Parce que voilà, il y a tout plein de choses qui se passent là. Il faudrait rajouter des petites flèches pour dire que là-dedans, ça tourne, ça circule. C'est comme une danse. C'est comme une profusion de vie, d'amour, de... Voilà. On va lire après. Hein. Donc, c'est par générosité et désir de partager cet amour avec d'autres qu'il a créé les mondes visibles et invisibles, les anges, tous les êtres célestes, les galaxies, les étoiles, les planètes, la terre, la mer, la vie, les animaux, les plantes, les humains, nos parents et nous. Donc, on a notre place là-dedans. Mais c'est vraiment son amour débordant de lui. C'est pas parce qu'il avait besoin de quelqu'un à aimer, hein. Et dans cette création qui nous a mis autour de nous, nous voyons une profusion de couleurs, de beauté, de formes de vie qui nous parle d'un Dieu artiste, d'un Dieu créatif. Pensez qu'il n'y a pas deux flocons de neige identiques, pas deux humains porteurs des mêmes gènes. Chacun de nous est absolument unique. Quelle intelligence, quelle imagination! Alors parfois, il y a des chrétiens qui se représentent le ciel comme un lieu tout blanc et immobile, où des gens habillés en blanc passent leur temps à chanter les louanges de Dieu en agitant des palmes, comme ça. Et ils se demandent ce qu'il y a de si formidable là-dedans. Et en fait, ils ne sont pas trop pressés de quitter la terre. C'est souvent les enfants qui parlent comme ça. Mais on fera quoi au ciel? On va s'ennuyer là, ou ça va être long? Moi, je suis convaincue que le ciel est un lieu infiniment plus attirant que la terre dans toute sa beauté. Qu'il y a au ciel des couleurs que nous n'avons jamais vues. Des musiques plus émouvantes que les plus belles symphonies, ou la plus belle chanson d'Antidote, si vous préférez. Des senteurs plus agréables que les parfums les plus chers, ou les roses les plus délicates. Et surtout, un amour, une plénitude de joie et de paix débordante, dont nous ne pouvons nous faire qu'une faible, une très faible image. Pourtant, nous avons tous, j'espère, des souvenirs de moments où nous avons eu l'impression pendant notre vie de toucher le ciel. Par exemple, la naissance d'un enfant, Une fête où on a retrouvé des amis et où on s'est senti tellement bien. Des fois, c'était une fête improvisée, c'était même pas prévu. Des amis qui passent, hop. Un jour, on fêtait, après le Covid, là. Je me rappelle, après le Covid, en 2020, on fêtait mon anniversaire. Il y a des amis qui sont passés devant la maison par hasard, quoi. Et ils se sont dit, tiens, si on allait voir. Alors, on les a invités à prendre le dessert avec nous, c'était super. Voilà, donc une fête qui nous remplit de joie. Ou alors une rencontre au cours de laquelle on a vécu un temps de partage qui nous a rejoints en profondeur. Des paysages qui nous ont coupé le souffle et remplis d'admiration pour l'artiste céleste. Parfois des coïncidences étonnantes qui nous ont sauvé la vie ou permis une rencontre décisive, etc. etc. Je suis sûre qu'on a tous des histoires comme ça à raconter où on s'est dit wow, « Waouh, mais là, c'était Dieu ça, c'était Dieu !» Bah, toutes ces fois-là, ce Dieu qui était là, bah, c'était l'Esprit-Saint qui est venu à notre rencontre, qui nous a mis sur la piste du ciel, même si nous n'étions pas encore croyants. Hein, parce que ça arrive aussi aux non-croyants, ces choses que je vous dis là. C'est Dieu qui veut se faire connaître, et c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour cela. Quand nous nous convertissons, nous ouvrons nos cœurs à Jésus-Christ. Hein, on dit, est-ce que tu veux laisser entrer Jésus dans ton cœur ? Parce que c'est en lui qu'on met notre confiance à cause de son œuvre. Mais celui qui vient habiter dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Quand on dit « Dieu m'a parlé », vous avez tous eu Dieu qui vous parle dans votre vie un jour ou l'autre. En fait, c'est le Saint-Esprit qui parle dans nos cœurs de la part de Dieu. En fait, il est présent et actif bien au-delà de ce que nous pensons. Et dans l'Ancien Testament, on a vu que le Saint-Esprit était envoyé de manière éphémère pour une durée limitée sur certaines personnes, pour une œuvre précise, alors que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est déversé sur tous les croyants et c'est pour l'éternité, c'est pour toujours. Alors on peut vraiment avoir cette assurance. Alors on revient au texte maintenant, 2 Corinthiens 3, 12-18 du coup, voilà. Alors, je vous ai fait une feuille, j'ai fait une vingtaine de copies de ce schéma avec le plan et tout, comme ça, vous pouvez l'emporter à la fin si vous voulez réfléchir, il y a des versets bibliques aussi, tout ça. Donc, si on peut retourner au texte du début. Voilà. À partir du verset 12. Donc, nous sommes pleins d'assurance, parce que nous savons que Dieu habite en nous. Et ce n'est pas pour nous condamner, ce n'est pas pour nous écraser de sa gloire, mais c'est vraiment pour nous faire vivre. Le Saint-Esprit, ça crée un peu... parler du Saint-Esprit, ça crée parfois du remous, parce que les gens se demandent, mais est-ce que moi j'ai reçu le Saint-Esprit quand je me suis convertie, parce que je n'ai pas vécu telle ou telle expérience que me raconte tel autre ? La Bible est claire, si tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit. Et si Dieu te parle, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle, il n'y en a pas d'autre. Quoi. Il est là, il est actif, il est vivant. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter avec ça. Et ce qui est très rassurant dans ce texte aussi, hein, on peut avancer, donc cette espérance nous remplit d'assurance, on continue. Voilà, la fin du texte. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas nous qui devons faire plein d'efforts pour être transformés. C'est lui qui nous transforme. Il suffit qu'on le suive, qu'on marche avec lui au jour le jour, qu'on fait ce qu'on peut, comme on dit. Et c'est lui qui fait le boulot. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est vraiment un repos, c'est vraiment un... quelque chose de rassurant et de qui nous donne cette assurance, justement. Voilà. La Bible parle d'adoption. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Un autre passage nous dit que le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur nous, c'est-à-dire son titre de propriété. Il est dit aussi que c'est l'acompte de notre héritage. L'acompte, ça veut dire, c'est un petit peu quelque chose en attendant le grand truc, quoi. Et comme ce miroir où on ne voit pas très bien en attendant de voir vraiment. Alors, quelle faveur, quelle dignité cette promesse nous confère? Donc, que peut-on faire de la compréhension de ces choses? Comprendre que si le Saint-Esprit habite en nous, il a quelque chose à nous dire, hein, il a des choses à nous dire. Donc, ce qu'on peut faire de mieux, c'est de s'arrêter, quand on peut, quelques minutes, pas forcément longtemps. Essayer de prendre du temps avec Dieu, mais vraiment de faire silence là-dedans. Et ça, c'est hyper difficile. On a tout le temps plein de choses qui tournent. Et d'essayer de s'arrêter une fois, même que c'est que 5 minutes, quoi. Mais d'arriver à faire calme là-dedans et dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, comme Samuel. Hein. Et écrire peut-être ce qu'on reçoit à ce moment-là. Écouter cette voix au fond de nous. Méditer ses paroles. Et vivre dans cette confiance que c'est Dieu qui travaille en nous. Que ce n'est pas à nous de produire des performances. Hein. Chante les louanges de Dieu qui t'aime, fais-lui confiance. Tes péchés, tes échecs ne sont pas un obstacle à son amour pour toi. Il veut t'encourager à les déposer à la croix, à te relever et à avancer. Et je voudrais finir par une bénédiction où les trois personnes de la Trinité sont présentes. C'est 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On va prier. Seigneur Dieu, tu es tellement plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Merci Seigneur de t'être révélé à nous. Et merci de savoir que nous pouvons t'aimer librement, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de faire des gaffes ou de ne pas être comme il faut. Merci pour le salut que tu nous as accordé en Jésus. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne chaque jour dans notre vie sur la terre. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans ta joie, dans ta liberté, dans cet amour chaleureux qui circule à l'intérieur de toi et que tu veux nous voir vivre aussi dans l'Église, dans nos familles, dans nos couples. C'est vraiment le modèle pour la vie en société. Merci, Seigneur, de nous enseigner par ta parole et de nous conduire chacun là où on en est, à grandir avec toi. Merci parce que tu vois chacun, que chacun est important à tes yeux, qu'il n'y a pas de différence. Et que tu nous aimes chacun d'un amour tellement spécial, tellement particulier. Louange à toi, Seigneur Dieu. Tous nos mots sont bien trop faibles pour te dire l'adoration de nos cœurs. Et même pour te décrire, on ne peut pas. Merci, Seigneur. Amen.